Bonjour et bienvenue pour une émission consacrée à l'agriculture et à l'élevage sur Radio Vassivière, une idée d'émission qui nous est venue en recevant des communiqués successifs de la Confédération Paysanne, organisation d'agriculteurs qui est minoritaire en Creuse mais qui existe quand même bel et bien. Avec nous ce matin à Royères-de-Vassivière, Jérôme Morvin, porte-parole de la Confédération Paysanne. Bonjour.
Bonjour.
Et sans nous, mais pas très loin, Christian Harvis, qui est de l'autre organisation syndicale, donc majoritaire en Creuse, qui s'appelle la FDSEA, qui est président de la section bovine de la FDSEA. Donc les communiqués de la Confédération Paysanne qui étaient alarmants et qui nous ont donné envie de faire cette émission, on emploie des mots comme hallucinant, scandaleux, inacceptable, à propos d'un seuil d'accès aux primes pour les éleveurs de 30 vaches, qui est réclamé par la Fédération Nationale Bovine, c'est-à-dire que en dessous de 30 vaches, on n'aurait plus du tout d'aide européenne. C'est la fameuse PAC, la politique agricole commune dont il est question, qui est négociée au niveau européen. Et ensuite, en France, l'État redistribue les primes aux agriculteurs, notamment aux éleveurs, et selon différents critères. Et en ce moment, là, c'est pas tranché encore. Il y a des discussions à Paris, je crois, à Paris, au ministère de l'Agriculture, pour savoir à partir de combien de vaches on peut toucher ces primes qui sont très importantes pour les éleveurs. Jérôme Morvin va nous expliquer en partie ça. L'idée, évidemment, c'était pas d'avoir seulement Jérôme Morvin dans le studio, mais aussi Christian Harvis. Il a pas pu venir, il a décommandé, on l'a enregistré par téléphone hier. Il est fort désolé de ne pas pouvoir être là avec nous ce matin. On va commencer par écouter Christian Harvis, donc qui vit et travaille à Saint-Frion en Creuse, qui va nous présenter tout simplement d'abord son exploitation, ce qu'il fait dans sa ferme et comment il vend ses vaches. On écoute Christian Harvis.
Donc moi déjà je suis installé en GEC avec mon frère, donc sur la commune de Saint-Frion à 680 mètres d'altitude. Donc on a 160 vaches allaitantes de race limousine et on engraisse quasiment toute la production. Je dis quasiment puisque on produit du taurillon lourd, du taurillon Hollande, c'est-à-dire que c'est un taurillon qui est abattu, qui est vendu à la Selmar. Et la Selmar abat ces bêtes-là à Mont-de-Morillon. Et ensuite, c'est des bêtes qui sont expédiées aux Pays-Bas. Les génisses sont en partie engraissées en génisses de Lyonnaise. Voilà, et une partie qui est vendue aussi pour la reproduction en Aveyron. Je vends des génisses pour la reproduction dans l'Aveyron, puisque les Aveyronnais ont une particularité avec ce qu'on appelle leur veau d'Aveyron, c'est que ils ne font pas de croix interne pour renouveler leur cheptel, ils achètent des génisses en extérieur pour qu'elles deviennent des vaches. Voilà. Donc je vends des génisses en Aveyron pour la reproduction. Celles qui ne partent pas à la reproduction sont engraissées en génisses lyonnaises commercialisées par la Selmar. Donc c'est des génisses qui ont 20-22 mois, quoi, qui sont abattues. Et pour les mâles, eux autres, je les engraisse en taurillons de 18-19 mois, des taurillons, ce qu'on appelle le taurillon Hollande, c'est-à-dire c'est des taurillons lourds, des taurillons qui font 480-490 kg de carcasse, qui sont abattus dans la Vienne, à Mont-de-Morillon, toujours par l'intermédiaire de la Selmar. Et ces bêtes-là sont expédiées en Hollande, aux Pays-Bas, quoi, puisque là-bas, faut savoir que dans ce pays-là-bas, ils sont consommateurs de cette viande-là. Mmh. Et le taurillon, aujourd'hui, c'est une viande qui n'est pas forcément très très consommée en France, parce que c'est une viande qui est plus blanche, et qui n'est pas forcément connue, je dirais, du consommateur. Alors peut-être qu'il y a un gros travail à faire là-dessus aussi.
C'était Christian Harvis de la FDSEA, Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles, qui est majoritaire à la Chambre d'agriculture de Creuse avec 70% des voix. Jérôme Morvin, alors toi, tu peux nous présenter à ton tour ton exploitation ?
Oui, donc nous, on a une exploitation en GAEC. On est quatre associés aujourd'hui. On a 70 hectares et on fait plusieurs productions. On a 40 vaches limousines, 30 chèvres fromagères, 200 poules pondeuses et une quinzaine de porcs charcutiers par an. Et en fait, nous, notre exploitation sur 70 hectares, on essaye de valoriser les produits jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on vend des caissettes de vaches et de veaux de 10 kilos. On vend des œufs, on vend du fromage de chèvre, on vend du porc charcutier, donc en caissette aujourd'hui. Et puis, on fait aussi du tournesol. Au départ, le tournesol, c'était pour avoir des tourteaux, pour être autonome en tourteaux sur l'exploitation. Et on valorise l'huile en huile alimentaire. Et tout ça en agriculture biologique, sur la commune de Vidaya et Soubrebeau.
En Creuse. Donc,
en Creuse, nord parc de Millebâche.
Très bien. Alors, pour en venir à la question des aides à l'agriculture, le jeu de cette émission, ça va être un aller-retour donc, entre Christian Harvis par téléphone hier et toi. On écoute donc son explication sur les débats actuels, à qui verser des primes et à qui ne pas en verser. Peut-être d'abord, tu peux juste nous dire, toi, tu en reçois ?
Oui, moi j'en reçois, oui.
Oui. Et c'est important dans l'économie de ton exploitation ?
Ben aujourd'hui, c'est 40% du chiffre d'affaires. Et en termes de revenus, c'est 100% du revenu.
D'accord, j'ai oublié de poser cette question pour avoir les chiffres de Christian Harvis, mais c'est important pour lui également. Alors, c'est un peu technique, mais on va essayer de faire un effort pour ceux qui ne sont pas agriculteurs, de suivre la logique des primes. On écoute à nouveau Christian Harvis.
Par exemple, sur la PMTVA, où il y a 690 millions d'euros qui sont mis à disposition pour cette prime au maintien du troupeau aux vaches allaitantes. Gros souci, puisque on s'est souvent battu et toujours battu pour que la prime PMTVA soit le plus proche possible des 200 euros. Alors d'où c'est qu'on part déjà ? Il faut savoir qu'avant, on avait des références historiques avec des quotas, des droits PMTVA. Les 40 premières vaches touchaient 200 euros et les 40 suivantes ne touchaient que 175 euros. Donc aujourd'hui, on veut essayer de maintenir ce niveau à 200 euros par vache pour une simple et bonne raison, c'est pour que toutes les vaches soient bien, aient bien une aide et pour redonner un peu de vigueur à l'élevage, puisqu'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on a un nombre de naissances qui est en chute libre, puisqu'on a perdu 120 000 naissances sur l'année 2013. On va arriver à 120 000 naissances en moins sur le plan national. On s'aperçoit qu'on produit de moins en moins parce qu'il y a beaucoup d'exploitations qui ont cessé partie de leur activité au niveau de l'élevage. Et on a un besoin de maintenir notre élevage dans les régions, surtout comme les nôtres, des régions herbagères qui sont difficilement reconvertibles. Alors après, il y a eu des seuils d'annoncer d'éligibilité, un seuil qui a été assez conséquent, qui a été annoncé, mais il faut toujours annoncer beaucoup pour obtenir très peu, sachant que sur la dernière réforme, pour pouvoir être éligible à la PMTVA, il fallait au moins avoir 3 vaches. Voilà. Donc il y a des chances que ce seuil soit revu un petit peu à la hausse pour justement, je dirais, bien cibler les agriculteurs et que ceux qui en bénéficient soient bien des agriculteurs je dirais à titre principal et qui vivent de l'élevage, quoi. Voilà, que les actifs soient reconnus sur les exploitations. Ensuite, il y a quand même d'autres aides, quoi. Il y a plus qu'à 125 millions d'euros qui vont être destinés aux ovins, une dizaine de millions d'euros qui vont être destinés à la production avec les chèvres. Faut savoir qu'il y a quand même aussi d'autres aides qui sont mises en place, hein, 45 millions d'euros pour les producteurs de lait de montagne et 4 millions d'euros d'autres aides, quoi. C'est quand même un total de 870 millions d'euros dans cette nouvelle PAC, quoi, qui est à mettre en place. Alors c'est pas évident, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui changent. On sait que les IHN vont être revalorisés de 15% à partir de cette année, 2014. Quoi.
On n'a pas bien compris les ISCHN ?
L'ICHN, indemnité compensatrice du handicap naturel. Voilà, comme nous, par exemple, dans le sud de la Creuse, on est en zone de montagne, il y a 5 zones, quoi, voilà, sur le département, et nous, on est en zone de montagne, donc cette ICHN va être valorisée. On sait qu'à terme, la PHAE, qui est la prime à l'herbe, si on aime mieux dire, l'enveloppe de la PHAE va être fondue avec les ICHN pour revaloriser les ICHN, voilà. Après, on ne sait pas forcément les critères d'attribution, on se dirigerait sur un plafond de 75 hectares par exploitant.
Vous, par exemple, vous avez combien d'hectares ?
J'ai 250 hectares.
Et donc le...
Eh bien, le plafond, ça serait 75 hectares, donc ça veut dire qu'on est 2 UTH sur l'exploitation, donc on toucherait que pour 150 hectares. Voilà. Mais avant, si vous aimez mieux, c'est que l'ICHN, c'était 50 hectares par actif. Et la PHE, c'était cette prime à l'herbe, c'était une autre enveloppe à côté qui pouvait aller jusqu'à 100 hectares par actif. Voilà. Donc aujourd'hui, ces deux enveloppes vont être fondues l'une dans l'autre, qu'on va redistribuer sous forme ICHN, sauf que le plafond entre 50 et 100 hectares, donc le plafond va être mis à 75 hectares pour tout le monde. Voilà. Alors il semblerait, au vu des premières simulations qui peuvent commencer de se faire, que la zone de montagne va être la zone ICHN qui sera le plus revalorisée. Donc ça veut dire que ça serait une mesure assez favorable pour nos, pour les régions du sud de la Creuse, je dirais, voilà. Quoi qu'ils vont voir quand même leur enveloppe fortement augmenter. On sait qu'à partir du moment, de toute façon, que ce soit n'importe quelle aide, on sait très bien qu'à partir du moment où on va mettre certains critères d'éligibilité, que ce soit un seuil un seuil pour pouvoir prétendre aux aides, ou un plafond après lequel on ne pourra plus percevoir d'aide, on sait très bien qu'on va laisser du monde sur le bord de la route, malheureusement, quoi. Et c'est incontournable, malheureusement, on ne pourra pas faire autrement, quoi.
Alors justement, ouais, vous avez dit que pour l'instant, il suffit d'avoir 3 vaches pour toucher,
voilà,
la prime.
Dans la prime au maintien du troupeau vache à étendre, telle qu'elle est actuellement, quoi, les critères, c'était il fallait avoir 3 bovins éligibles. Voilà, et on avait le droit à un taux de productivité de 0,6 veaux nés par vache. Et il fallait, on pouvait éventuellement mettre 40% de génisses qui pouvaient être éligibles. Ça veut dire que, j'explique, ça veut dire qu'une personne qui aurait eu 100 droits PMTVA pouvait très bien avoir 60 vaches plus 40 génisses pour pouvoir prétendre à ces 100 droits. Et c'est tout là la difficulté. Parce qu'à côté de ça, on avait des éleveurs aussi qui avaient 100 vaches, mais qui n'avaient que 60 droits à prime. Donc ça veut dire qu'ils avaient 40 vaches qui n'étaient pas primées. Voilà. Alors aujourd'hui, il semblerait que ce taux de 40 génisses va être aboli et que la PMTVA va bien redevenir la prime au maintien du troupeau vache allaitante, c'est-à-dire que c'est une prime qui sera attribuée aux vaches productrices sur les exploitations. Le gros problème qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, je vous ai dit, 690 millions d'euros et il y a 4,5 millions de vaches éligibles. Voilà. Donc on sait que 690 millions d'euros divisé par 4,5 millions de vaches, on sait que ça ne fait pas 200 euros par vache comme on voulait au départ. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est obligé d'établir des critères pour pouvoir prétendre. Ce que je crois savoir, hein, après, voilà, ce que je crois savoir, il semblerait que la Confédération paysanne, elle, veut donner à partir de la première vache, ce qui est complètement ridicule, je dirais, puisque si on fait ça, ça veut dire qu'on va faire du saupoudrage et qu'on va enlever cet effet positif qu'avait cette PMTVA de maintenir des vaches sur les exploitations. C'est pour ça qu'on demande un seuil d'éligibilité. Aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui paraît forcément ridicule, puisque on sait que la réforme de la PAC à mi-parcours, il y a 3 ans, pour les ovins, la prime à la brebis a été accordée à partir du moment où on avait 50 brebis. Ça veut dire que tous les éleveurs qui n'avaient pas 50 brebis ne peuvent plus prétendre à la prime à la brebis. Voilà. Donc je veux dire, c'est quelque chose qui est un petit peu dans la continuité de ce qui s'est fait avec les ovins il y a 2-3 ans de ça, quoi. Et malheureusement, on va se diriger un peu vers la même chose pour la PMTVA. Alors après, je sais qu'il y a eu des chiffres d'annoncer un seuil de 30 vaches. On sait que c'est le seuil qui a été annoncé, mais que c'est pas forcément le seuil qui sera retenu. Je pense qu'on va peut-être se diriger vers un seuil de peut-être 10 vaches par actif. Je dis bien par actif sur les exploitations, quoi.
Quelques explications, c'est la Fédération Nationale Bovine, donc qui fait partie de la FNSEA à laquelle vous êtes membre, qui a au début du mois de novembre, vers là, annoncé qu'elle souhaitait que la prime soit donnée qu'aux agriculteurs qui ont au moins 30 vaches.
Voilà.
Et vous êtes en train de nous dire que c'est en tout cas c'est un petit peu un effet d'annonce pour partir de chiffre élevé pour arriver à moins.
Voilà, voilà. C'est comme dans toutes les négociations. Vous savez, regardez, je vous parlais de cette fameuse PMTVA. On s'est battu depuis plusieurs mois maintenant pour dire qu'il fallait la maintenir à 200 euros par vache. Et vous voyez l'enveloppe qu'on nous a mis en face, 690 millions de 690 millions d'euros, 4,5 millions de vaches. Donc on sait que ça ne fait pas 200 euros par vache, quoi. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a eu un seuil dénoncé assez... 30 vaches qui paraît assez élevé quand même, quoi. Et c'est pas forcément la position qui ressort dans tous les départements. Mais on sait bien qu'on est obligé de demander beaucoup pour obtenir très peu, quoi. Et que c'est une manière de faire monter un petit peu le seuil d'éligibilité qui n'était que 2-3 vaches, quoi. Parce que ça veut dire que je veux pas piquer la politique à qui que ce soit, mais je dirais que les plus réactifs ou les choses que, ou les gens un peu de ce monde-là, quoi, qui font un métier tout à fait honorable à côté et qui ont quelques vaches parce qu'ils ont quelques un bout de terrain du grand-père, de leur grand-mère, quoi, voilà, quelques jardins à entretenir, quoi, peuvent prétendre aussi à cette PMTVA si on met le seuil à partir de la première vache, sauf que c'est des gens qui vivent pas de l'agriculture, c'est des gens qui vivent totalement à côté, qui ont besoin de l'agriculture pour vivre, quoi, et c'est ce qui permettrait un peu aussi d'ordonner de la loyauté à ceux qui vivent vraiment du métier d'agriculteur.
Il y a, d'après ce que vous dites, beaucoup de gens qui ont juste quelques vaches, qui ne sont pas agriculteurs, mais qui touchent des aides, oui, destinées aux agriculteurs, réellement. Mais par exemple, en Creuse...
Je sais qu'il y en a, c'est sûr. Après, je ne suis pas capable de vous annoncer de chiffres. Voilà. Nous, donc, si vous aimez mieux, le fait de mettre un seuil d'éligibilité, je dirais, c'est pour professionnaliser un peu le métier d'agriculteur aussi, quoi. Voilà. Après, on comprend très bien aussi que des personnes qui ont entre 15 et 20 vaches et qui ont, je sais pas, un troupeau de chèvres en fromagerie à côté ou quelque chose comme ça, ont besoin aussi des PMTVA pour vivre sur leur exploitation. Et c'est pour ça que je dis que le seuil a été annoncé de 30 vaches, mais qu'on pense que le seuil retenu sera beaucoup plus faible que ce qui a été annoncé, quoi. Et je pense qu'un seuil de 10 vaches par actif sur une exploitation serait un seuil raisonnable pour pas faire dans le démesuré et pour que tout le monde se reconnaisse et que cette aide elle soit bien destinée aux vaches productrices sur les exploitations, quoi, qu'elle soit pas dilapidée qu'elle soit pas dilapidée et qu'elle ne fasse pas l'effet qu'elle devrait faire, quoi, qu'elle nous permette bien de maintenir des vaches sur les exploitations, quoi. Parce qu'il faut savoir que on remonte, la PMTVA, c'est quelque chose qui est très très vieux, qui sont des droits historiques, quoi, avec très peu d'évolution. En Creuse, grosso modo, on doit avoir 175 000 droits PMTVA, il y a à peu près 178 000 vaches allaitantes, quoi. Ça veut dire qu'en Creuse, on serait pas trop trop mal loti, étant donné qu'on aurait quasiment le même nombre de droits à prime que le nombre de vaches allaitantes. Sauf que, de par le fait qu'on ait le droit de mettre 40% de génisse, ces droits-là sont très très mal répartis sur les exploitations.
C'est Christian Harvis de la FDSEA, éleveur à Saint-Frion. Maintenant, on retourne dans le studio de Royère de Bassivière. Alors, Jérôme Orvin, pour vous, à la Confédération Paysanne, ça veut dire des centaines d'exploitations qui recevraient plus d'aide, hein, c'est bien ça?
Avec les premières propositions que la Fédération nationale bovine a proposées, donc si effectivement le seuil des 30 vaches est accordé en Limousin, ce serait 2400 exploitations qui aujourd'hui détiennent des bovins qui n'en bénéficieraient plus. En Corrèze, c'est 38%, plus de 1000 exploitations. En Creuse, c'est 22%, plus de 600 exploitations. Et en Haute-Vienne, c'est plus de 650 exploitations, 27%. Donc aujourd'hui, l'impact sur nos territoires... Donc je suis d'accord avec Christian Harvis sur l'enjeu de l'élevage, sur comme quoi c'est une priorité dans nos territoires herbagers. Mais après, la même enveloppe, on peut la répartir différemment. Alors si le seuil passe à 15 vaches, comme la deuxième commission nationale le 19 novembre l'a proposé, eh ben, il y aura en Creuse que 13% des exploitations impactées, mais il y a encore un nombre d'exploitations impactées, et notamment les exploitations en diversification, c'est-à-dire qu'ils ont plusieurs ateliers, et donc s'ils ont 80 brebis, 15 vaches, un peu de transformation, eh ben, ils bénéficient d'aucune prime, parce que qui dit un seuil de 30 vaches pour la PMTVA dit un seuil de 100 brebis, côté ovin. Donc tout l'élevage, en fait, en mettant des seuils, en mettant un plancher, vont être impactés sur le fait qu'ils ne pourront pas bénéficier des primes recouplées comme l'a voulu le gouvernement. Donc en fait, la Confédération Paysanne propose un plafond et non pas un plancher. C'est-à-dire que, effectivement, que dans nos zones, où pour valoriser l'herbe, il nous faut des ruminants. Il n'y a que les ruminants qui peuvent valoriser ces espaces-là. Il faut reconnaître tous les élevages. Alors, je suis d'accord que il faut que les exploitants, les paysans, ils puissent vivre de leur activité. Donc, ceux qui font effectivement des doubles activités, le seuil tel que le définissait Christian Harvis tout à l'heure, est souhaitable. Mais le seuil actuel est de 3 UGB, c'est-à-dire 3 unités, équivalent 3 UGB, unités gros bovins, c'est-à-dire équivalent 3 vaches ou équivalent 21 brebis.
C'est quoi un équivalent 3 vaches si c'est pas 3 vaches?
Eh ben, c'est une UGB, c'est une vache.
D'accord.
Un cheval, c'est une UGB, donc c'est l'équivalent d'une vache. C'est...
un cheval, c'est l'équivalent d'une vache.
Oui, au niveau alimentation. Pour une brebis, c'est 0,15 UGB, c'est-à-dire qu'il faut 7 brebis pour faire une vache en équivalent alimentation. Donc, on calcule en nombre donc, d'UGB. Donc, je disais que pour le... C'était quoi mon idée d'avant ?
Je t'ai coupé. Tu nous parlais des seuils pour les pour les éleveurs qui ont plusieurs types d'animaux, je crois.
Oui, pour les seuils. Donc nous, le seuil actuel, donc c'est 3 UGB. Donc nous, on est pour garder ce seuil-là, de primer comme aujourd'hui les premières vaches. Alors est-ce que le seuil au-dessus doit être à 40 vaches, à 60 vaches ? Bon, ça, il est à définir. Et puis, toutes les vaches supplémentaires sont moins primées, une aide dégressive. Ce qui fait qu'on reconnaît toutes les exploitations qui font de l'élevage, on reconnaît l'élevage sur tous les territoires, et puis on favorise les petites exploitations, les moyennes et les plus grosses. Sachant que pour les plus grosses, effectivement, l'aide sera dégressive, mais a priori sur des aides publiques. Aujourd'hui, on a une PAC qui va favoriser les 52 premiers hectares de chaque exploitation. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas l'équivalent au soutien de l'élevage où on mettrait une prime pour les premiers animaux et puis dégressif ensuite sur le même principe ?
Donc, si j'ai
là,
bien compris.
C'est vraiment la bataille actuellement. Donc d'ici 15 jours, au niveau ministère, sur les tractations, est-ce qu'on va mettre un seuil à 3, à 5, à 10, à 15, à 30 ? Eh ben, c'est l'enjeu des jours qui viennent. Et aujourd'hui, la Confédération paysanne pose le débat pour dire il faut que la société, au-delà de l'agriculture, prenne en compte ces orientations politiques-là, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas en tant que syndicat agricole où on peut être les seuls à dénoncer le type d'élevage, le type d'agriculture que l'on veut sur nos territoires. Il faut que d'autres disent, nous, on veut de l'élevage sur nos territoires, on veut aider l'agriculture. Aujourd'hui, il y a des difficultés économiques sur toutes les exploitations. On doit aider tout le monde et pas que ceux qui, soi-disant, vivent du métier entièrement. On vit tous de ce métier-là. C'est juste que quand on a plusieurs activités...
Il a fait référence à pas mal d'agriculteurs qui auraient juste 3-4 vaches, donc qui toucheraient des primes, mais qui ne seraient pas des vrais agriculteurs. Et comme on a pu entendre, je vais demander en creuse... D'après lui, ça existe, ça, et je ne savais pas que c'était important dans le discours de la FDSEA. Il y a vraiment beaucoup de petits agriculteurs qui ne sont pas vraiment agriculteurs, mais qui touchent des primes pour avoir 3-4 vaches.
C'est pas forcément dans ce sens-là. C'est parce que, comme il l'a expliqué, parce que des gens ont des parcelles, ils mettent des animaux dessus, et donc comme il y a un seuil à 3 UGB, s'ils ont 3 UGB, ils peuvent bénéficier des aides. L'intérêt...
Y a du monde qui fait ça réellement ici ?
Moi non plus, je n'ai pas les chiffres exacts, mais en Limousin, c'est... dans notre région, ce n'est pas une région où on a beaucoup de cas dans cette situation-là. C'est plus dans des cas, dans des zones, sur d'autres réalités, mais dans le sud de la France, où il y a plus de cas de ce type-là, mais ce n'est pas que dans l'élevage, c'est un peu dans toutes les productions, où des pré-retraités, des gens qui prennent un statut agricole, prennent de la place, effectivement, alors qu'ils n'ont pas besoin de ce revenu-là pour vivre. Mais sur nos territoires ici, on a besoin d'entretenir tous les paysages. Si, d'un côté, on a une PAC qui reconnaît à travers la prime montagne le fait qu'on entretienne l'espace rural et qu'on donne à notre paysage le cachet qu'il a aujourd'hui, eh ben, c'est une volonté et tant mieux. Mais il ne faut pas qu'on occulte la question de la production. Il faut que ces territoires-là, ce ne soient pas que des territoires d'entretien d'espace, mais ce soient des territoires de production, où on produit des animaux, des plantes, des céréales, de l'aliment, de l'alimentation pour nous derrière.
Je reviens un peu sur les primes, parce que c'est quand même assez compliqué hein, quand on n'est pas dans le métier. Il y a une partie des primes, donc des aides aux agriculteurs qui viennent de la Commission européenne, c'est-à-dire qui viennent des États, qui viennent des impôts, quoi, qui sont distribuées selon la surface et une partie selon le nombre de bêtes. C'est ça, en gros, les deux types de primes, en gros. Ben,
aujourd'hui, dans la politique agricole commune, donc dans la PAC 2007-2013 et qui se prolonge sur 2014, il y a deux types d'aides. Il y a l'aide à l'hectare. Mmh. Aujourd'hui, qu'on appelle DPU, et on a l'aide à la production, c'est-à-dire des aides couplées, c'est-à-dire qu'en échange de cette aide, on doit produire des animaux. Donc dans aujourd'hui, c'est les deux types d'aides. Et dans le cadre de la PAC qui se profile à 2014-2020, il y aura toujours ces deux types d'aides avec les soutiens couplés qui vont être limités à 15%. Donc dans les 15% couplés, il y a la prime à la brebis, la prime à la vache allaitante, les aides à l'installation. Enfin, il y a dans cette enveloppe, il y a tout. La France a utilisé le maximum de ce qu'elle pouvait, donc tant mieux. Mais donc c'est pour permettre de recoupler, c'est-à-dire qu'en échange de tel argent, on doit produire tel type de produit. De produits. Les autres aides, aujourd'hui, les DPU vont disparaître. Ils vont être remplacés, ce qu'on appelle, par des DPB, paiements de base. Des paiements de base. Et ça va être une transition sur les 6 années qui vont venir. C'est-à-dire que petit à petit, il va y avoir une aide verte, un paiement redistributif sur les 52 premiers hectares, et puis les DPB.
Qu'est-ce que c'est qu'une aide verte ?
Une aide verte, ça va être pour reconnaître... alors, ce n'est pas l'ancienne PHAE, parce qu'elle va être regroupée dans la prime ICHN, mais c'est sur les mêmes critères de faire reconnaître ben justement le respect de l'environnement dans la pratique agricole.
Et, quelle... l'idée est de reconnaître la participation des éleveurs au paysage.
Tous les exploitants, oui. C'est pas que les éleveurs, mais c'est pas que les éleveurs, mais toutes les exploitants pour reconnaître la participation à l'entretien de l'environnement dans l'espace rural.
On en est où de la discussion là ? Toi, tu vas dans ces réunions à Paris là ? Il y a des réunions au ministère de l'Agriculture toutes les semaines quasiment en ce moment pour trancher ça. Ça doit être c'est tendu quand même un petit peu.
Je ne siège pas dans les commissions nationales. Moi, je suis responsable au niveau de la région, mais pas au niveau national. Comme c'est des histoires de lobby sur la question effectivement des seuils. La FNB est partie d'un seuil de 30 vaches pour obtenir plus que 3 et moins de 30. Mais c'est une question de bataille.
C'est un bras de fer, là.
C'est un bras de fer. Et...
on en est à 15, là, maintenant ?
Donc,
c'est du poker, un peu ?
La réunion du 19 novembre, c'était 15. Aujourd'hui, la sénatrice de la région a proposé 5. Le député, Christian Harvis disait tout à l'heure 10. Et en fait, effectivement, les enjeux vont se jouer autour de ces seuils-là. Mais
c'est un peu dernier moment, là. Ce n'est pas le genre de débat qu'il y avait au moment des présidentielles pour savoir combien on va aider les agriculteurs. Là, c'est un peu entre vous, entre syndicats, qu'on se met d'accord sur un bout de table au ministère de l'Agriculture.
Entre les 6 derniers mois, les syndicats sur la région Limousin, la FDSEA, les JA, le MODEF, la Confédération Paysanne, ont été d'accord, comme l'a présenté Christian Harvis en début d'émission, sur les priorités à l'élevage sur nos territoires. Mais aujourd'hui, quand on décline la répartition de l'enveloppe, effectivement, on n'est pas d'accord parce que nous, on considère qu'on doit reconnaître tous les éleveurs et eux, ils considèrent qu'il faut reconnaître que ceux qui font que ça. Donc, c'est là où effectivement on n'est pas d'accord, et nous on propose donc un autre fonctionnement, comme je disais tout à l'heure. Pourquoi la Confédération paysanne elle a cette position? C'est parce que l'agriculture paysanne que l'on défend, elle n'a pas que la question de la production. Aujourd'hui, nous on produit des animaux, des plantes, mais sur un territoire, sur un espace qui fait vivre des gens, qui fait vivre des métiers, des bouchers, des transporteurs, des gens qui localement vont aussi transformer les produits. Et donc, l'économie de notre exploitation, elle est vraiment ancrée sur son territoire. Et nous, notre vision de l'agriculture paysanne, ce n'est pas que produire pour produire. C'est produire sur un territoire, produire pour des consommateurs, produire pour des métiers qui sont autour de nous sur notre pays. Et donc, la dimension de l'agriculture paysanne, c'est vraiment toute cette dimension de territoire, d'environnement, de social, d'économique. Et donc, comme on a une vision beaucoup plus de développement local dans notre et territorial dans notre vision de l'agriculture, c'est pour ça qu'on réagit, parce que c'est dommage, par des critères de production, qu'on détruise encore plus des territoires en termes de désertification, que ce soit au niveau des hommes, au niveau des animaux et au niveau économique, comme le plateau de Mille Vaches, comme la région Limousin, comme le Massif Central, qui sont des territoires où, sans l'élevage, effectivement, les territoires se fermeront, quoi.
Sur cette question du territoire, des territoires et des transports, de la production et de du nombre de fois où elle est transportée avant et après, Christian Harvis a des choses à dire, puisque la FDSEA se mobilise, elle, contre l'écotaxe. On a vu la semaine dernière qu'ils ont bloqué des routes, l'autoroute A20 et la Nationale 145. Et donc, on a aussi des choses à dire sur la question. Nous allons faire une pause musicale avec une petite tarentelle, et on revient dans cette émission sur Radio Vassivière pour poursuivre ce débat par téléphone interposé sur l'élevage et l'agriculture. À tout de suite.
Thank you.
Daniel et CP, un morceau extrait de la bande originale d'un film qui s'appelle L'amour meurtri, Tarantella del Gargano. Vous êtes bien sur Radio Assivière, 88.6 et 92.3 si vous êtes du côté du sel. On est avec Jérôme Morvin de la Confédération Paysanne Creuse et Christian Harvis de la FDSEA, section, président de la section bovine Creuse aussi, qui va nous donner son explication sur les blocages la semaine dernière de routes dans la région contre l'écotaxe, la fameuse écotaxe en Bretagne. Donc, il y a un mouvement assez varié, on va dire, pour faire vite, entre des usines d'agroalimentaire où ça licencie, des routiers et des patrons d'usines mécontents de la taxe sur les poids lourds, donc, et localement, en Limousin, ça réagit aussi à cette écotaxe. On écoute Christian Harvis nous expliquer pourquoi, comment les paysans d'ici se mobilisent contre cette taxe.
La FDSEA de la Creuse, nous avons mené une action contre l'écotaxe. Alors, pourquoi on n'est pas parti plus rapidement? Parce qu'il faut savoir que en Creuse, déjà, on n'a pas de portique. Les deux portiques qui sont à proximité, il y en a un qui est sur l'Avin à la croisière, mais côté Haute-Vienne, et un autre qui est à Nouan, donc, mais côté Allier. Donc c'est pour ça que la Creuse n'était pas partie trop tôt, je dirais, dans ce genre d'action, puisque comme on n'en avait pas chez nous, on était obligé d'avoir quand même l'accord du département de l'Allier et du département de la Haute-Vienne pour le faire. Donc mercredi, nous avons mené une opération qui se voulait une opération médiatique, hein, auquel cas on voulait aller mettre des banderoles sur les portiques pour dire non à l'écotaxe. Et on a été reçu par les forces de l'ordre comme il se doit bien, puisqu'on sait bien que quand il y a une manif d'agriculteurs ou de routiers, qu'il peut y avoir autant de forces de l'ordre de déployer, quoi, puisque on n'a jamais pu approcher les portiques, sachant que les deux routes, que ce soit la 20 ou la 145, avaient été déviées, quoi, pour pas qu'il y ait de circulation dessus. Et les forces de l'ordre étaient sous les portiques, plusieurs compagnies de CRS, et on n'a jamais pu approcher. Alors pourquoi non à l'écotaxe? Je dirais tout simplement parce que aujourd'hui, nous, producteurs, quand on produit, quand quelque chose sort de notre exploitation, je veux dire, il faut que ce produit-là, il soit transformé pour arriver dans l'assiette du consommateur. Et on sait que notre produit va être amené à emprunter 6 ou 7 fois la route avant d'arriver dans l'assiette du consommateur. Et donc, par ce fait, le produit va être taxé 6 ou 7 fois. Donc, comment on peut supporter une augmentation de taxes comme ça? On ne peut pas la répercuter ni au consommateur, ni au producteur. Je veux dire, on va encore taper dans les petits revenus. Quand on sait que demain, il semblerait qu'au niveau des engrais, même si l'élevage est très très peu consommateur d'engrais, puisqu'on essaye de produire le plus naturellement possible, je dirais, la TVA risque de passer de 7 points à 20 points, 13 points de plus. Comment voulez-vous que les agriculteurs fassent face à de telles hausses de charges incompatibles et incompréhensibles, quoi, parce que on nous dit que cette écotaxe, elle est mise en place pour taxer, alors au départ on nous avait dit que c'était pour taxer un peu les firmes de les flottes de transport étrangères, quoi. Sauf qu'aujourd'hui, voilà, et puis que c'était fait pour améliorer les réseaux routiers, qu'il fallait favoriser le transport fluvial et le transport ferroviaire. Juste une petite anecdote. Il y a 2 ans, la FDSEA de la Creuse, on a fait une opération paille avec le Loiret, solidarité paille avec le Loiret pour la sécheresse. 27 000 tonnes de paille qu'on a ramenées du Loiret en Creuse. On n'a pas pu réussir à avoir un train de paille qui arrive en Creuse. Voilà. Alors, il y a un moment, on veut bien une taxe, mais qu'elle serve à quelque chose. On sait qu'aujourd'hui, le transport ferroviaire en agricole, ça relève de l'inimaginable. Quant au transport fluvial, on n'en parle même pas à l'intérieur du territoire. Je veux dire, il y a un moment où il faut arrêter de pondre des taxes uniquement pour taxer les gens qui travaillent. Je veux dire, un agriculteur, c'est quand même un éleveur, ça induit quand même 7 emplois. Je crois qu'il faudrait quand même le prendre en considération, parce qu'aujourd'hui, on est dans une phase où, je dirais, il n'y a pas beaucoup beaucoup de secteurs dans lesquels il y a de l'activité où on entend dire que ça va si bien que ça, quoi. L'élevage, c'est quand même un secteur d'emploi important. Et ben, aidons les éleveurs, quoi, plutôt que de leur mettre encore des taxes sur le dos pour juste pour le plaisir de faire des choses qui ont été votées par le Grenelle de l'environnement, parce qu'au passage, c'est quand même une belle taxe, parce qu'elle a été votée par la droite et elle est mise en place par la gauche. Et là, je trouve que nos politiques, tous autant qu'ils soient, là, ils font fort.
Je comprends bien que le transport est trop cher, mais justement, est-ce qu'il n'y aurait pas une autre réponse qui serait de transporter un peu moins?
Alors, c'est-à-dire que le souci qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, alors il existe plusieurs types de marchés, je dirais. Il y a la vente directe à la ferme, qui est le circuit le plus court, sauf que ça, je dirais que c'est quand même des marchés qui restent un peu des marchés de niche, quoi. Tous les agriculteurs ne peuvent pas faire ce genre de vente. Après, pourquoi notre bœuf il va être autant taxé, nous, c'est qu'aujourd'hui, voilà, on va acheter de l'aliment, le camion qui va venir livrer l'aliment, il sera passé sur la route, il sera taxé. On va envoyer notre bête à l'abattoir, pour l'envoyer à l'abattoir, elle va être taxée, d'autant plus qu'en Creuse, on n'a plus d'abattoir. On est obligé d'aller dans les départements voisins. On sait qu'aujourd'hui, les abattoirs, c'est malheureusement, il y a un tiers des abattoirs qui travaillent en sous-production, qui n'a pas plus assez pour être assez rentable, je dirais. Suffit qu'on leur mette quelques normes sanitaires européennes encore et que ça leur fasse faire des investissements. Ça veut dire que ces outils de production, ils vont être amenés à fermer. Donc à partir du moment où on diminue le nombre d'abattoirs, on est obligé de faire plus de routes pour aller faire abattre nos bêtes, quoi. Donc c'est, je dirais, c'est un peu le chien qui se mord la queue, quoi. Mais après, c'est vrai que tout ce qui est en circuit court et compagnie, ben, faut saluer les personnes qui peuvent le faire, parce que c'est un mode aussi de production qui permet un peu, je dirais pas d'éliminer les intermédiaires, mais qui permet de produire plus directement.
Voilà, donc Christian Harvis sur cette question du transport de l'écotaxe. À la Confédération Paysanne, qu'est-ce que vous en pensez de cette taxe? Et je te laisse réagir sur Jérôme Orvin sur ce qui vient d'être dit.
Eh ben, par rapport à la Confédération Paysanne sur l'écotaxe, il n'y a pas eu de position nationale sur cette question-là. Pour nous, l'écotaxe, elle est... Pour moi, elle est mal gérée dans la manière où elle a été mise en place. Mais pour moi, ce type de taxe doit exister pour faire reconnaître justement l'impact sur l'environnement, sur les routes, sur nos territoires de ce tout transport par camion. Donc à un moment donné, il faut faire reconnaître... il faut mettre une taxe en place pour faire reconnaître... l'impact sur l'environnement. Après, moi, je vais prendre l'exemple de nous sur l'exploitation, comment, justement, on ne fait pas cette fois le transport des animaux sur la France. Moi, mes animaux, effectivement, je les vends en vente directe. Je demande à ma coopérative, donc là, je suis adhérent à la CCBE, de m'emmener les animaux à l'abattoir. Donc,
Creuse, Corrèze, Berry, Élevage.
Voilà, le nom de la coopérative, oui. Moi, je vais à l'abattoir de la Châtre, dans l'Indre, parce qu'effectivement, sur le département, nous n'avons plus d'outils d'abattoir. Donc moi, je travaille avec une association qui s'appelle Collectif Abattre et Valoriser la Viande en Limousin, où d'ici un an, on devrait réouvrir l'ancien abattoir des Moutiers pour créer un pôle viande, pour justement fournir à toutes les personnes, mais que ce soit les éleveurs, les cantines, les consommateurs, tous les gens qui travaillent dans le domaine des circuits courts, d'avoir un outil sur le territoire. Et donc moi, comment je m'y prends? La coopérative m'emmène les animaux vivants à l'abattoir. Donc il faut un premier trajet de 90 km. Après, je demande à un transporteur en froid de me ramener les carcasses à un atelier de découpe. Donc ça fait un deuxième transport. Donc pour moi, c'est sur la commune de Sardan, 75 km. Moi après au niveau de l'exploitation, donc on embauche un boucher, on loue une salle de découpe et nous on aide le boucher à conditionner la viande et après nous livrons les consommateurs directement, donc ça fait le troisième transport, point. On a livré chaque client et nous notre clientèle elle est sur la région Limousin, c'est à dire que le plus loin où on va c'est Tulle, donc 120 km. Donc en fait, comme l'abattoir est à 90 km et le client le plus loin à 120 km, notre viande ou nos produits que l'on produit sur l'exploitation est travaillée dans un rayon de moins de 120 km. Et donc, quand moi, enfin, quand un consommateur prend de la viande chez moi, quand il met 10 euros dans la viande, eh ben, ces 10 euros, ils ont permis de faire travailler donc, l'éleveur qui est moi au départ, après une partie la coopérative, une partie l'abattoir, donc la châtre, une partie le boucher, une partie donc l'atelier de découpe que l'on loue. On fait aussi de la conserve, donc on travaille avec la conserverie des Mille Sources à Bourganeuf. Et puis après, on livre les clients directement chez eux qui nous ont commandé. Et donc toute cette chaîne-là, eh ben, les 10 euros qu'on a mis, effectivement, ils fonctionnent sur ce territoire qui est notre territoire de la région Limousin. Alors grande région parce qu'on est obligé de sortir à cause de l'abattoir. Mais aujourd'hui, voilà nous, notre économie, comment elle fonctionne. Et si aujourd'hui, le conseil régional, les conseils généraux veulent que dans les lycées, dans les collèges, on mange local. On mange de la viande de qualité et de la viande locale. Mais pas que de la viande, il y a aussi des légumes, des fruits. Et donc, où est-ce qu'on les trouve? Et aujourd'hui, on a un système économique, comme l'a décrit Christian Harvis tout à l'heure, qui est fait pour les circuits longs. C'est-à-dire qu'on transporte les animaux à l'extérieur de la région, qui vont se faire découper dans une autre région, qui vont peut-être revenir dans notre supermarché pour le vendre, pour des consommateurs. Mais il aura fait effectivement 7-8 fois... des bornes en camion. Et donc, si on relocalise des outils sur notre territoire, qui vont, donc nous, ce que l'on appelle le pôle viande à Aimoutier, c'est-à-dire fournir un service qui va du transport de l'animal vif, de l'abattage, de la découpe, de la transformation, du stockage en froid, de la livraison en froid, donc soit en carcasse, soit en surgélation, pour tous les clients qui le souhaitent. Et donc, on adapte au territoire un outil pour les circuits courts. Et en fait, ça n'existe pas aujourd'hui. Parce que tous les circuits mis en place aujourd'hui depuis plus de 50 ans ont été vers des grosses unités, vers la concentration de l'agroalimentaire ou de certaines productions dans certaines zones. Et donc, nous, on propose de venir carrément à un système où on relocalise les outils, ce qui fait qu'en niveau transport, ben, on ne sera pas soumis à l'écotaxe parce qu'on va faire des volumes moindres sur notre territoire. On va produire des aliments que nos consommateurs produisent. Et effectivement, la viande de taurillon aujourd'hui, elle n'est pas consommée ici. Qu'est-ce que les gens consomment ici?
Tu as dit des aliments que nos consommateurs produisent, que nos consommateurs veulent consommer.
Oui, les consommateurs français et puis notamment de notre région, ils consomment de la viande rouge, donc plutôt type bœuf, donc vache, génisse, lourde ou des bœufs. Le taurillon, c'est une viande trop tendre, il faut la cuisiner plus en bouillie, enfin type plat cuisiné. Et donc c'est plus les pays de l'Est
La Hollande en tout cas c'était l'exemple de monsieur Harvis, ouais. Qui lui
tout à fait,
vend
mais
beaucoup là-bas,
que ce soit la Turquie, la Hongrie, la Hollande, l'Italie, c'est des zones où ils consomment ce type de produit. Nous en France on est plus sur de la viande rouge et donc de la viande plus mature. Mais moi je fais aussi du veau de lait, alors veau de lait type rosé, type comme l'a expliqué tout à l'heure le veau de l'Aveyron. Effectivement, dans l'Aveyron, ils ont un type de veau qui est le veau rosé, le veau du Ségala. Et en fait, c'est tellement intéressant de produire du veau rosé que les gens ne gardent pas des génisses pour le renouvellement. Donc, ils les achètent à l'extérieur. Donc, effectivement, on est quelques-uns à pouvoir fournir des génisses de renouvellement à l'Aveyron. Mais pourquoi est-ce que nous, en Limousin, on n'arriverait pas à valoriser du veau rosé, nous aussi? Et c'est là où, si dans nos exploitations, on arrivait à finir nos animaux, les veaux, avec le lait de leur mère et l'herbe et le foin qu'on a à notre disposition, on arriverait à faire ce type de veau rosé et on arriverait à le valoriser dans les boucheries auprès des consommateurs. Et moi, je vois tous les consommateurs, que ce soit des restaurants ou des privés qui prennent les veaux rosés que nous on produit, eh ben, il n'y a pas de problème au niveau de la qualité, du goût, de la texture. Tout le monde est très content de ce type de viande. Donc il faut qu'on arrive à plusieurs à valoriser ce type de viande pour qu'on arrive à finir nos animaux type veau de lait sous la mer, donc de type rosé, et puis avec l'herbe sur nos territoires, de valoriser des vaches finies à l'herbe ou des bœufs aussi. Donc en termes d'aide à l'engraissement, il y a aussi une autre question là qui se joue actuellement, c'est-à-dire est-ce que l'aide à l'engraissement, on va aider à produire que des taurillons ou des génisses lourdes, ou est-ce qu'on va reconnaître sur chaque exploitation le fait de finir des veaux ou des bœufs? Et là, eh ben, il y a encore une question au niveau national sur, comme l'enveloppe au niveau national elle est limitée, donc c'est subventionner tous les ateliers de plus de 20 taurillons. Donc, ce qui veut dire qu'une exploitation qui engraisse 15 taurillons ou 30 bœufs dans notre région ne sera pas reconnue parce qu'il est hors critère. Dans les critères nationaux qui sont définis aujourd'hui.
C'est décidé ou c'est en cours?
C'est dans le même pot que la PMTVA, la prime à la vache allaitante, qu'on parlait tout à l'heure. Donc il y a l'aide aux ovins, l'aide à la vache allaitante, l'aide à l'engraissement. En fait, toutes ces aides-là sont en cours de négociation au niveau national. Et donc, réponse vers le 18-20 décembre, a priori, vu le calendrier national aujourd'hui.
À propos de circuits dans l'élevage, il y a un circuit qui est très important, c'est celui des broutards qui partent d'ici pour aller en Italie. Il y a du nouveau peut-être dans ce domaine-là. En tout cas, Christian Harvis, qu'on va écouter, nous attire notre attention sur des changements, c'est-à-dire que les agriculteurs italiens qui commandent et font venir les broutards du Limousin, et d'ailleurs, pourraient être moins intéressés que dans les dernières années par ça. Ça reste une hypothèse, hein. Mais on écoute Christian Harvis sur l'engraissage des broutards en Limousin en Italie.
Sachant qu'en Italie, tout à l'heure, on parlait des marchés, notamment sur le marché du maigre, hein, puisqu'on sait que les Italiens sont quand même ont quasiment, je dirais, l'exclusivité des broutards français. Il y a une petite révolution qui est en train de se passer, qui peut devenir inquiétante aussi. Les engraisseurs italiens sont beaucoup dirigés sur les unités de méthanisation pour produire l'électricité. Donc aujourd'hui, une partie d'entre eux commence à mettre dans leur méthaniseur le maïs, ainsi que du fumier de bovin, mais ils peuvent remplacer le fumier de bovin par les fientes de poule pour faire tourner leur méthaniseur. Donc ça veut dire qu'il y a quand même de la matière en moins pour faire l'engraissement. Voilà, donc c'est à terme, espérons que ça ne prendra pas une importance capitale, parce que la partie broutard sur l'Italie pourrait quand même être remise en cause en partie.
Que le maïs, au lieu de le donner à manger aux vaches, ils vont le mettre dans le méthaniseur.
Voilà. C'est-à-dire que le méthaniseur, si vous aimez mieux, il faut amener des matières pour que ça fermente et que ça produise. Et ce qu'ils font aujourd'hui, c'est qu'ils ont inventé des systèmes de méthaniseurs où ils vont récolter du maïs qu'ils vont broyer et qu'ils vont mettre dans le méthaniseur. Et avec ça, si vous aimez mieux, dans un méthaniseur, il faut des matières fécales pour que ça produise des gaz, que ça transforme et tout avec les bactéries. Et ce qui se passe, c'est que donc les premiers méthaniseurs qui ont été mis en place, tels qu'il peut y en avoir en Creuse, marchent principalement avec du fumier de bovin, sauf qu'aujourd'hui, on sait que le méthaniseur peut marcher avec des fientes de poulet, par exemple. Donc ça veut dire qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir un atelier bovin pour pouvoir le faire. Donc à terme, ça veut dire que est-ce qu'ils continueront bien de remplir leurs ateliers d'engraissement à 100%, quoi. Si la méthanisation devient rentable, on n'est pas sûr qu'ils délaissent pas un peu cette partie engraissement.
Christian Harvis, donc, de la FDSEA, sur Radio Vassivière. Jérôme Orvin, de la Confédération Paysanne, une réaction par rapport à cette nouveauté de la méthanisation en Italie?
Cette question de la méthanisation, mais c'est la même, c'est plus une question de production d'énergie. Comment la société aujourd'hui va produire son énergie? Effectivement, on peut la produire aujourd'hui avec de la méthanisation, avec des panneaux solaires et avec de l'hydroélectrique, avec des barrages, autres que par des centrales nucléaires. Mais, et donc, point de vue production d'énergie, ça peut être une bonne chose. Mais après, quel impact ça va avoir en termes d'économie sur nos territoires? Si, comme en Allemagne qui a développé les méthaniseurs, on n'a plus d'élevage, on fait produire ailleurs. En Italie, on prend la même voie, où les broutards français, ils vont aller où? Pour l'instant, il y a des demandes dans certains ateliers dans l'ouest de la France, mais ça tiendra pas parce qu'une fois que la technologie des méthaniseurs sera développée dans toute l'Europe, on ira produire nos animaux au Brésil, en Argentine ou ailleurs. Et c'est là tout l'enjeu de la production d'énergie, où aujourd'hui, c'est plus rentable de produire de l'énergie que d'élever des animaux. Donc je reviens au point de départ de la bataille actuelle. C'est si on veut reconnaître l'élevage, reconnaître nos territoires, on n'a pas d'autre choix que de reconnaître tous les éleveurs, tous les animaux, pour justement donner une priorité à l'élevage et pas derrière à l'énergie. Parce que si on favorise que les plus gros auront les moyens de s'acheter des terres, auront les moyens de monter des usines de méthanisation. Et après, bah, sur nos territoires, effectivement, on verra des céréales, du maïs pour fournir des méthaniseurs. Et on marche sur la tête parce que si on veut manger local et de qualité, eh ben, il va falloir entre se chauffer ou manger, bah, va falloir bientôt choisir. Donc pour moi, c'est un danger sur les enjeux à venir, sur la place de l'élevage chez nous, quoi.
Il est 11h57, l'émission, on touche à sa fin, à moins que tu veuilles rajouter quelque chose, tu fais signe que non. Merci, merci aussi à Christian Harvis de nous avoir parlé par téléphone, faute d'avoir pu être là au dernier moment. C'était une heure spéciale sur Radio Bassivière sur l'élevage et l'agriculture. Vous allez retrouver maintenant le 12-14 avec Kevin et l'Infomag à Ussel. À bientôt, merci de nous avoir suivis.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose. En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. Et c'est comme ça que les choses arrivent. En 17, Lénine et ses camarades ne disaient pas « nous allons faire la révolution parce que nous voulons la révolution ». Ils disaient « toutes les conditions de la révolution sont réunies, la révolution est inéluctable ». Ils ont fait la révolution qui n'aurait jamais eu lieu s'ils ne l'avaient pas faite, et qu'ils ne l'auraient pas faite, ils n'avaient pas pensé qu'elle était inéluctable uniquement parce qu'ils la voulaient. Je vois quelque chose a bougé dans ce monde, ça a toujours été pour le pire. Voilà pourquoi personne ne bouge. Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour risquer de provoquer un nouveau 19, un nouveau 14, un nouveau 37.
Glorieuse façon, jamais plus rien.
Si, parce qu'il y aura toujours des fous.